bonjour à tous. Dans la vie des idées aujourd'hui, violence et passion, le nouveau livre de l'essayiste libéral Nicolas Bavrez, tendance décliniste, un plaidoyer pour la sécurité contre les inégalités provoquées par la mondialisation, à l'heure où s'ouvre justement à Davos le 48e forum économique pour réparer un monde fracturé, comment s'y prendre? Point de vue à retrouver après le journal d'Antoine Mercier. Mais d'abord, de l'arrestation à la libération, entre l'absence et l'attente, il y a la douleur, titre du film d'Emmanuel Finkiel, adaptation élégante du récit éponyme de Marguerite Duras, incarnée par Mélanie Thierry, ancienne assistante de Godard et de Kieslowski, sur la trilogie Bleu-Blanc-Rouge, réalisateur depuis avec Voyage ou encore Je suis. Le très sensible Emmanuel Finkiel est notre invité, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard à la carte en vous abonnant au podcast de l'émission.
La grande table. Olivia Jesbert.
La douleur de Marguerite Duras, publiée chez POL en 85, écrit à la fin de la guerre. Elle avait à peine 30 ans. Un texte de jeunesse, selon l'auteur, qui dit n'avoir aucun souvenir de l'avoir écrit. Un journal intime où elle a consigné, jour après jour, l'attente, celle de son époux, Robert Antelme, arrêté puis déporté. Comment ai-je pu écrire cette chose que je ne sais pas encore nommer et qui m'épouvante quand je la relis, écrit-elle en préambule. Comment a-t-il pu en faire un film, bande-annonce?
Je savais qu'il savait. Qu'à chaque heure, de chaque jour, je le pensais. Robert n'est pas mort au camp de concentration.
Depuis l'arrestation de Robert, le réseau est fragilisé. Ils vont chercher à tout remonter.
Vous êtes la femme d'Antel?
Oui, c'est ça. J'ai rencontré le flic qui a arrêté Robert.
Pardon, le salaud de la Gestapo.
Je suis très flatté. Tracé à la même table qu'un écrivain.
Je ne suis pas ici pour parler littérature, vous le savez bien. Je suis là pour parler de mon mari.
Pour votre colis, je vais voir ce que je peux faire.
Merci.
J'ai peur pour toi, tu comprends.
Il faut que je fasse attention. Je vois ce qu'il essaie de faire.
Vous connaissez cet homme?
Il se sert de moi, alors même que je crois me servir de lui.
Si vous m'aidez à le retrouver, je ferai en sorte que Robert soit pas déporté.
Comment ça, déporté?
Marguerite!
Vous me méprisez. Les gens comme vous, ça méprise les gens comme moi.
La plus attachée. Robert Antelme ou l'autre douleur?
Quelqu'un a sonné à la porte. Bonjour Emmanuel Finkiel.
Bonjour.
Marguerite Duras dit éprouver un sentiment d'épouvante à la lecture de ces lignes quand elle les retrouve, ces deux cahiers, dans une armoire bleue. Quand elle redécouvre ces deux cahiers noircis au fil des jours, dit-on, à partir d'avril 45. Vous, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez lu ce livre?
Oh ben j'ai été bouleversé, mais comme pas mal de gens quand ils lisent ce recueil. Et je me souviens que c'était vraiment l'épilogue qui m'a fait quasiment fondre en larmes à la lecture, quand elle nous annonce, il n'y a pas de suspense, quand elle nous annonce qu'elle va se séparer d'Antelme, cette personne qu'elle attend pendant tout le livre. Ça m'avait paru d'une violence insoutenable. J'étais jeune, je pensais pas que la vie était comme ça. Donc ça m'avait, oui, marqué.
L'amour trahi, c'est ça qui vous a choqué? Fissuré?
Non, compte tenu de mon histoire personnelle, si vous voulez, et l'histoire de la famille, c'était plutôt le survivant trahi. Je me disais, mais à quoi ça sert qu'un type revienne s'il n'est pas aimé, s'il n'est plus aimé? Ça m'avait choqué.
Il est aimé peut-être quelque part aussi, quand même, à travers
la tante. Oui, il est profondément aimé, mais ce sentiment... là, de le quitter, enfin, ça, je trouvais ça très violent.
Alors, il y a un peu débat aujourd'hui, à savoir, est-ce que Marguerite Duras a réécrit par la suite ce texte quand exactement l'a-t-elle écrit ? Il y a dans tous les cas eu intervention de l'auteur par l'ordonnancement des trois textes qui composent La douleur. Ça, c'est ce que dit Sophie Bogart dans une notice de la Pléiade. Un travail de réécriture ou de recomposition, mais elle souligne aussi la fidélité de l'écrivaine au manuscrit écrit entre 45 et 47. Je me suis trouvée devant un désordre phénoménal de la pensée, écrit Duras en préambule, et du sentiment auquel je n'ai pas osé toucher et au regard de quoi la littérature m'a fait honte. Pour vous, le cinéaste Emmanuel Finkiel, la question est comment mettre cette littérature en image, comment faire un film avec les mots des autres. Vous avez fait le choix de la fidélité, de ne pas vous priver des mots, de ne pas nous en priver non plus, et de rendre justice à ce texte qui est quand même poignant, avec ses souffles tout en retenue, ses silences, le cri sourd aussi de la douleur, de faire entendre la musique du texte de Duras, c'était l'essentiel pour vous ?
Oui, ça me paraissait évident, parce que, en fait, vous voyez, je n'ai pas adapté, si je puis dire, la douleur. J'ai adapté ma lecture de la douleur, c'est-à-dire ce que ça m'a fait sur moi. Et évidemment, dans ce processus-là, le style de Duras, parce que pour moi, quand elle dit « la littérature m'a fait honte » à côté de ce document tout à fait brut, je n'y crois qu'à moitié. Pour moi, je pense que c'est très écrit. Et heureusement. Et puis, même si on disait c'est très fictionné par rapport à la réalité, je dirais là encore heureusement. Parce que, après tout ce débat, en fait, je me dis que ça n'a pas grande importance. Et que, à des moments, il faut qu'il y ait construction artistique, donc mensonge, pour s'approcher un peu de la vérité. Elle nous raconte, je pense, plus le vrai que si c'était un témoignage tout à fait brut.
Alors comment ça se passe à partir du moment où vous décidez d'adapter ce texte? Où commence le casse-tête pour vous, le réalisateur?
Mais le casse-tête, c'est rendre, suggérer ce qui est vraiment très enfoui dans ce qu'on lit, ou ce qui est dit par des mots et qui est véhiculé que par des mots. C'est essayer de d'envisager les choses dans la suggestion. C'est-à-dire que j'espère que le spectateur n'appréhende pas tout ça par l'intellect, mais vraiment par la perception.
Parfois, dans le film, Mélanie Thierry, qui incarne Marguerite Duras, se dédouble. Ce dédoublement, vous l'avez voulu, à l'instar de la figure de Marguerite Duras, qui dans ce texte est à la fois la femme qui attend et l'écrivaine qui relate, la femme qui témoigne et l'écrivaine qui fait de cette attente un projet littéraire aussi.
Oui, mais en étant tout à fait franc, qu'on le voit comme ça, c'est normal, on sait que Marguerite Duras est un écrivain, et qu'on y voit dans ses dédoublements l'auteur face à sa création, en quelque sorte, ou à sa pensée, c'est, en étant tout à fait franc, ce n'est pas ça que je visais. Je visais une dualité qui n'est pas propre à Marguerite Duras, mais qui est absolument l'attribut de toutes de nous tous. C'est le mécanisme de la conscience. On arrive à ressentir quelque chose et dans le même temps à se voir ressentir cette chose-là. Et à juger si on est honnête ou pas. Ça nous arrive tout le temps. Donc là, je l'ai incarné. Vous voyez, c'est arrivé à un moment donné où, en lisant, elle décrit une situation où elle apprend par téléphone que son mari est vivant, qu'il y a des traces de lui, et elle décrit une espèce de crise d'hystérie où elle se jette par terre, éructant, pleurant, elle dit « il faut que ça sorte de partout ». Et en lisant ça, je me suis dit « je n'y crois pas ». Je pense qu'elle se met en scène. Mais je pense aussi qu'elle
n'est
pas...
Donc vous la mettez en scène, en train de se mettre en scène?
Non, je la mets en scène n'étant pas dupe de ce cinéma qu'elle fait, si je puis dire. J'aurais pu le gommer, puisque j'y adhérais pas. Plutôt que le gommer, j'ai essayé d'y aller. Mais je l'ai dédoublé à ce moment-là, en disant « elle n'est pas dupe ».
Le texte, La douleur, a été présenté comme un revers, un pendant d'une certaine manière de L'espèce humaine de Robert Antelme, son mari qu'elle attend et qui raconte l'expérience concentrationnaire pour lui. Texte publié très rapidement après la guerre, en 47. La douleur, c'est la vie de ceux qui sont restés, c'est la vie de ceux qui attendent. Certains y ont vu aussi une part d'indécence ou un acte un peu déplacé, d'aller se raconter alors qu'on n'a pas vécu quelque chose d'aussi innommable, d'aussi violent que l'expérience concentrationnaire.
Oui, effectivement, il n'y aurait pas eu L'espèce humaine, je pense qu'il n'y aurait pas eu le texte La douleur. il me semble effectivement que elle a voulu, au regard de l'histoire, encore une fois, c'est sorti dans les années 80, 85, elle a voulu amener quelque chose de l'ordre du document qui puisse être dans une balance, effectivement, être un autre point de vue quasiment aussi fort que l'espèce humaine d'Anthelme. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça de sa part. Et de fait, si vous tapez « retour de prisonnier » ou je ne sais quoi sur Google, vous verrez convoquer son texte même avant celui d'Anthelme. Alors qu'effectivement, l'espèce humaine est un témoignage et une pensée réflexive absolument précieuse et rare pour essayer d'appréhender ce qui s'est passé. Bon, cela dit, le document de Duras, qui est, je vous le répète, pour moi un acte de littérature et une quasi-fiction, néanmoins se veut parler au nom, au-delà de son histoire, de toutes ces femmes qui attendent quel que soit le conflit. C'est en cela que c'est extrêmement actuel, bien sûr. Parce que ces femmes en position d'attente, il y en a des milliers aujourd'hui.
De ces femmes ou de ces hommes qui parfois aussi attendent d'autres, bien des sûr, proches qui sont partis.
Ou des pères, des fils, vous voyez.
Vous avez choisi d'adopter la subjectivité de l'auteur pour éviter peut-être les travers du film de référence. C'est ce que vous aviez reproché à sa sortie à la liste de Schindler de Steven Spielberg en 93. Votre part de subjectivité à vous, on la retrouve aussi, j'imagine, à l'écran. Quelle est votre expérience à vous, Emmanuel Finkel, de l'attente, de l'absence?
Mais je l'ai déjà dit, c'est-à-dire, en vérité, quand à 25 ans à peu près j'ai lu le récit, ce qui m'avait troublé par-dessus tout, je connaissais pas bien Duras, ce qui m'avait troublé c'est que j'y retrouvais quelque chose que je connaissais. Et c'est-à-dire, dans mon enfance, au contact de mon père, qui était cette figure, puisqu'il avait perdu ses parents et son petit frère raflé en 42, il était celui qui attendait. Évidemment, quand je suis né, il savait depuis bien longtemps déjà, grâce aux travaux de Klarsfeld, un peu la destinée qu'avait suivi ses parents et son petit frère, du Vélodrome d'hiver jusqu'à Auschwitz. Donc il avait une espèce de confirmation qu'il ne reviendrait jamais. Néanmoins, je pense que je l'ai toujours vu, jusqu'à la fin, être celui qui attend. Quel était l'objet de son attente? C'est toute la question que soulève Duras. C'est Anthelme, bien sûr, mais c'est pas seulement Anthelme. C'est autre chose, comme elle dit.
Duras, elle était aussi cinéaste. Elle a réalisé plus d'une quinzaine de films. Elle a scénarisé aussi, notamment Hiroshima, mon amour. Elle a adapté ses livres, dont India Song et Détruire, dit-elle. Le cinéma, pour elle, est un prolongement de la littérature. D'ailleurs, elle a dit une fois, je ne suis pas une cinéaste, je suis mon cinéaste. Écoutez Marguerite Duras, évoquant Détruire, dit-elle, qu'elle avait écrit et réalisé en 69.
J'ai eu envie de connaître mieux ce livre, donc de le voir et de l'entendre. Quand vous lisez un livre, vous avez un film de ce livre dans la tête. Vous êtes bien d'accord? Vous avez votre film de Madame Bovary. Bon. Si c'est l'auteur, si c'était Flaubert qui avait fait Madame Bovary, quand vous voyez le film, vous dites, tiens, ça m'intéresse de voir le point de vue de Flaubert sur son film. Vous vous posez une question. Si c'était même René qui faisait Madame Bovary, vous diriez, je n'ai pas le même point de vue que René sur Madame Bovary. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que, enfin, pour les cinéastes, si vous voulez, j'avais prévu toutes les scènes, et en extérieur, et en intérieur.
Quel film elle en aurait fait de la douleur, d'après vous, Emmanuel Finkel? Vous vous êtes posé cette question?
Pas trop, parce que ça m'aurait un peu pétrifié. Je pense qu'elle aurait fait, évidemment, un film beaucoup plus radical, si je puis dire. Son cinéma est extrêmement radical, et c'est moi ce que je salue. C'est-à-dire que quand elle dit que... ce que vous avez cité, c'est-à-dire que le cinéma ne serait qu'un prolongement de ce qu'elle a écrit. Moi, comme spectateur des films de Duras, j'ai pas ce sentiment-là. J'ai le sentiment d'une vraie vision de cinéaste, au contraire, qui est peut-être pas ce que je ressens quand je lis ses livres. C'est ça qui est troublant dans ce qu'elle dit. Elle a beau faire un film, ça a beau être son point de vue, eh bien, le point de vue que je vois dans son livre, c'est pas celui-là que j'aborde. Vous savez, elle le dit, quand vous lisez un livre, il vous appartient. C'est votre point de vue. Il y a autant de douleurs, de récits de la douleur, que de lecteurs qui l'ont lu, si je puis dire. Le film fixe quelque chose, parce qu'il rend concret quelque chose. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais c'est absolument pas comparable. Je ne pense pas qu'un film puisse être le prolongement de la littérature. C'est autre chose. C'est un autre objet.
C'est tellement un autre objet que vous avez remanié la construction du livre à votre manière, Emmanuel Finkiel, pour rendre aussi le récit peut-être plus cohérent. Vous êtes moins attaqué effectivement au texte. On retrouve quasiment tel quel les mots de Duras, mais plus à la construction. La troisième partie du récit n'est pas du tout dans le film. Albert des Capitales, récit d'une condamnation par un tribunal de résistants présidé par Dionys, incarné chez vous à l'écran par Benjamin Biolay. Les deux premières parties sont inversé, c'est-à-dire vous avez retrouvé le fil des événements, les jours qui ont suivi l'arrestation de Robert Anthelme, puis l'attente, le corps d'Anthelme quand il revient, parce qu'il y a la partie du retour, reste d'ailleurs assez flou. Vous prenez le parti de ne pas montrer ce qu'on appelle l'immontrable, hein. Le crime contre les Juifs, c'est l'infini, on ne peut pas l'appréhender, avec écrit d'ailleurs Marguerite Duras, écrire l'indicible, montrer ce qu'il est impossible de montrer ou de représenter, ça c'est tout le questionnement qui a suivi pour le cinéma par la suite, lancé par Adorno, repris par Claude Lanzmann qu'on recevait récemment autour de la grande table avec son projet de film Shoah, extrait de Votre douleur, Emmanuel Finkiel.
Rabier me téléphone tous les jours. Les rendez-vous qu'il me donne sont toujours de dernière minute. Toujours à des heures également inattendues. Par exemple 6h-20, 4h10, des rendez-vous toujours dans des lieux ouverts. Des endroits à plusieurs sorties. Café d'angle, carrefour de rue. Quartier de prédilection, 6e arrondissement. L'Assemblée, République du Rock, Palais Royal. Rabi arrive toujours très en avance sur l'heure donnée et il attend toujours assez loin de l'endroit du rendez-vous. Quand c'est dans la rue, il est toujours plus loin que l'endroit indiqué. Quand c'est dans un café, il est par exemple sur l'autre trottoir, mais pas devant le café. Il est toujours là d'où l'on voit le mieux celui qu'on attend. Souvent, lorsque j'arrive, je ne le vois pas. Il surgit de derrière moi.
Qu'est-ce qu'il incarne pour vous, Emmanuel Finkiel, ce Pierre Rabier, joué ici par Benoît Magimel? C'est la figure du salaud ordinaire pour vous?
Oui, relativement. Oui, avant tout, c'est une belle ordure, n'est-ce pas? Parce qu'il est quand même un flic très efficace qui s'est mis au service de la Gestapo. Pour des raisons qu'on n'évoque pas, que n'évoque pas Duras, mais on en a quelques signes, quelques traces, et je pense que c'était quelque chose d'assez récurrent. Au fond, pour quelque chose d'assez, une faille, je dirais, assez existentielle, et c'est vraiment pas pour le justifier, ni pour amoindrir ces trucs. C'est-à-dire qu'il a l'impression, en épousant la grande cause de l'Allemagne, de participer à ce qu'il imagine être l'Europe de demain, dirigée par l'Allemagne, soit, mais dans lequel la France, et sa France, aura une part, et que peut-être, miraculeusement, il pourra s'extraire de sa condition et devenir, qui sait, peut-être un intellectuel, lui aussi. Car au fond, je pense que son première attirance pour Marguerite, c'est qu'il est en face d'une intellectuelle. Et alors ça, c'est quelque chose. Il n'est pas loin de son idéal, du moins, je ne sais pas. Et voilà. Alors, comme rien n'est jamais simple chez Duras, semble-t-il, effectivement, elle le décrit comme une ordure, mais elle distille en même temps quelque chose qui est de l'ordre de l'attirance, voire même d'un certain érotisme à distance. Et donc, c'était un peu ça qu'il fallait rendre.
Parce que c'est un agent de la Gestapo, pris aussi et au service de cette grande machinerie qu'est le nazisme à l'époque, mais là où il est attendrissant, entre guillemets, aux yeux aussi de Marguerite Duras, telle qu'elle se l'avoue, c'est que c'est un homme qui aime les lettres, en tout cas qui dit les aimer, la littérature et les écrivaines. Cette figure de Duras l'attire pour ces raisons-là. Dans les mots de Duras, vous avez vu Depardieu, sous les traits de Pierre Rabier. Il aurait pu l'incarner à l'écran, cet agent de la Gestapo que Marguerite rencontre quelques jours après l'arrestation de Robert Antelme. C'est donc Benoît Bagimel qui l'interprète dans votre film, Emmanuel Finkel. Gérard Depardieu, pourtant, il a commencé au cinéma avec Marguerite Duras, dans Nathalie Granger en 72, puis dans Le Camion en 77, et elle l'aimait beaucoup.
C'est loin de l'intellectuel. Elle est à l'écoute de la vie qui passe. Je pense que c'est le contraire d'une intellectuelle. C'est pas quelqu'un qui réagit en fonction des idées. C'est quelqu'un qui réagit d'abord en fonction du physique et de ses sens et de ses émotions. Elle est très sensible à la musique d'une voix. C'est quelqu'un qui vous permet d'être tout à la fois et surtout d'être vous-même. On ne se bat pas avec un texte de Duras, on n'a rien à prouver, on existe simplement.
Ouais, là, il n'y a plus grand-chose à dire. Mais on ne se bat pas avec un texte de Duras, on existe, tout simplement. Oui. On peut rapprocher quand même les corps de Benoît Magimel à celui de Gérard Depardieu.
Qui n'a pas de méprise, parce qu'on pourrait croire dans ce que vous avez dit que je rêvais de Depardieu et j'ai travailler avec Benoît Magimel. C'est pas ça que j'avais dit dans un précédent entretien par rapport à Depardieu. C'est que j'ai noté que quand elle a rencontré Depardieu au cinéma, il me semble qu'elle ne l'a pas lâché. Et que cette présence, qui pour moi me semble être l'altérité totale, c'est tout ce que n'est pas Marguerite, y compris l'univers, le physique, ce côté terrien. Et je crois que son attirance se situe là. C'est ce que je me raconte. Il me semble que ces figures d'hommes un peu de bad boy, avec une espèce de très masculin comme ça, apparaît souvent dans son œuvre. Et c'est ça que j'ai voulu dire par rapport à Depardieu. Mais quand j'ai rencontré Benoît Magimel, il se trouve qu'effectivement c'est une période de sa vie où il a un physique comme ça, tout en rondeur qui pourrait rappeler un peu Depardieu parfois, ce n'est pas en référence à Depardieu que j'ai choisi Magimel. Magimel a cette chose rare et précieuse de pouvoir avoir à la fois au même moment cette animalité et en même temps un regard de môme, une fragilité formidable. Et il me semblait que c'était quelque chose d'intéressant pour le rôle.
Rappelons que La Douleur est sortie en 85, que cette rencontre entre Marguerite Duras et Gérard Depardieu se fait dans les années 70 par le cinéma. Donc cette évocation, ce lien peut aussi se faire à travers cette date et ce calendrier. Emmanuel Finkel, quelle vision de l'histoire vous aviez eu envie de développer en choisissant d'adapter ce livre? Pourquoi déjà la Seconde Guerre mondiale? On a l'impression qu'elle continue à beaucoup nous passionner, mais vous choisissez un temps très particulier, celui de la libération, celui dont on parle peu, de la fin, qui est en fait le début d'autre chose, qui l'est pour les êtres, et ça on le voit à travers ce thème développé de l'absence, de l'attente, mais aussi politiquement, parce que c'est un texte assez critique, ce texte de Duras sur le gaullisme, hein, se profile une autre rupture, celle entre les communistes et les gaullistes, qu'on retrouve assez bien
sur le pouvoir du système en place qui va quelque part réécrire un peu l'histoire, c'est-à-dire qui va rendre amnésique, qui va nous priver de la révélation de ce qui s'est vraiment passé, et puis évidemment de ce qui s'est vraiment passé entre les Français, car c'était ça l'idée, de faire une espèce d'unification nationale. Mais en vérité, ce qu'elle écrit, évidemment, il y a la présence prépondérante des Allemands, mais c'est une histoire hautement franco-française. Et j'ai pas spécialement eu envie de replonger dans la Deuxième Guerre mondiale, mais il est vrai que le récit de Duras a cet intérêt formidable, c'est de focaliser, comme vous l'avez dit, sur une époque assez peu montrée, et qui est une époque effectivement charnière, et dont on a le sentiment quand même qu'il est fondateur de ce qui se passe maintenant, à plusieurs niveaux, que ce soit politiquement, mais aussi que ce soit tout ce qui se passe autour de la mémoire de ce qu'on peut appeler la Shoah maintenant. C'est-à-dire, il me semble qu'à cette époque-là, il y a eu un terrible malentendu. Il y a eu une parole confisquée. Et elle est à prendre en compte quand on veut analyser l'histoire du rapport à la mémoire de cette partie des Français qui a été déportée, pardon.
Invité de la grande table aujourd'hui, Emmanuel Finkiel, pour son adaptation de La douleur. La douleur sur les planches aussi, c'était avec Dominique Blanc, magistrale dans une mise en scène de Patrice Chéreau. Elle l'a joué pendant des années, au moins 5 ans, et notamment au théâtre de l'Atelier. Elle en dit que c'est une pièce moderne, qui nous parle encore aujourd'hui. Pour les raisons que vous venez d'évoquer, Emmanuel Finkiel, peut-être pour d'autres, écoutez.
Quand à la fin, les spectateurs se lèvent un à un, pour moi, c'est une réponse au texte de Duras. C'est une réponse directe et immédiate, très spontanée. Et ça me bouleverse chaque fois. Je ne sais pas du tout si elle aurait aimé ça. Je me dis parfois, est-ce qu'elle aurait aimé que ce texte devienne une pièce de théâtre, qu'il se passe cela, qu'on ait distillé en même temps quelques petits extraits des cahiers de la guerre. Qu'est-ce qu'elle aurait dit ? Enfin, en tout cas, ce texte est d'une modernité incroyable. Il y a un palpitant à l'intérieur de ce texte qui interroge les gens, qui les bouleverse et qui les dérange, et qui fait qu'à la fin, effectivement, les gens se lèvent un à un, je dirais. Et c'est la réponse à son texte.
Qu'est-ce qui peut faire qu'aujourd'hui encore, on se lève devant votre film, qu'on se lève devant ce texte, que le fait de l'ovationner, de se lever, de l'entendre, de l'écouter, est une réponse au texte de Marguerite Duras pour vous,
Emmanuel Finkiel? Elle nous touche au plus haut point. Et pourquoi elle nous touche? En fait, toutes ces polémiques autour d'elle montrent bien une chose, c'est que elle n'hésite pas à se montrer dans tous ces paradoxes, quitte à apparaître comme mal aimable. Tout ça pour épaissir le sentiment qu'elle veut nous donner, qu'elle appelle la douleur, là, mais la douleur, ça peut pas, la définition, on peut pas la donner en une phrase. Il y a plusieurs entrées possibles. On sent bien, quand on ressent ce genre de sentiment, nous, dans nos vies, combien on peut difficilement l'expliquer à quelqu'un d'autre. Eh bien, elle nous donne une lecture qui nous ressemble terriblement. Elle nous parle de nous. Et c'est ça. Vous savez, on va toujours chercher quelque part ce qui nous concerne. Alors, c'est une façon de dire que si on se lève sur son texte, c'est qu'on s'y est reconnu.
C'est aussi un film sur la culpabilité avouée, la honte reconnue.
Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui s'est occupé de la Pléiade.
De l'édition de la Pléiade, oui, de Marguerite Duras.
C'est ça.
Celui-là.
Et il m'a rappelé une chose que je ne savais pas, c'est que l'histoire de Rabier, elle l'a écrite au même moment qu'elle écrivait le scénario d'Hiroshima mon amour. Il me disait, c'était le recto Hiroshima mon amour, et le verso, il y avait les notes de Rabier. C'est très intéressant pour une chose, j'ai revu Hiroshima mon amour, après avoir travaillé sur la douleur. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, en fait, je n'avais pas compris de quoi ça parlait, avant. Je pensais que c'était sur la grande culpabilité de l'humanité qui largue la bombe. Mais il me semble que c'est frontalement un film sur la honte que ressent ce personnage en second plan, dans L'Hiroshima en amour, qui a été tondu et qu'on a enfermé dans une cave. Je pense que la culpabilité et la honte est au centre de la douleur.
Merci beaucoup, Emmanuel Finkiel. La douleur, votre film, est en salle demain. Merci mille fois.
Merci à vous.